Pendant que soviétiques et américains se lançaient dans une compétition spatiale, les Européens de l'époque ne sont pas restés les bras croisés. Donc nous allons voir aujourd'hui les programmes européens, France-Angleterre, coopération européenne, les vols habités français avec Jean-Jacques Ibos.
Bonjour chers auditeurs. En France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle recrute des techniciens allemands ayant travaillé sur les V2 et crée à Vernon, dans l'Eure, le laboratoire de recherche balistique et aérodynamique. Son objectif ? Développer une fusée capable d'atteindre 60 km d'altitude en emportant 50 kg. Et le 28 avril 1947 est créé en Algérie, à cette époque un territoire français, le centre d'essais spéciaux de Colombéchard. Mais vers 1950, devant la puissance des engins à tester, un champ de tir plus isolé est construit, la base spatiale d'Amaguir, au Sahara algérien, à 700 km au sud d'Oran. De 50 engins tirés en 1950, on en tirera 1100 entre 1959 et 1960. Quels étaient les engins lancés ? En 1950, il y avait Véronique, la fusée Véronique. Son nom est lié à son lieu de naissance. Véronique est la contraction de Vernon, le site du constructeur, et d'électronique. Une première version réduite est tirée en 1950 au camp de Suippes. Elle sera utilisée entre août 50 et janvier 52. En mars 1959, Véronique amène des instruments scientifiques à l'altitude de 70 km. Trois tiers de Véronique étudieront la vitesse, les turbulences et les températures à des altitudes comprises entre 90 et 200 km. Cette dernière version pourra envoyer 100 kg à 210 km, soit faire mieux que l'objectif initial. Fort de ses succès, le général de Gaulle crée en 1950 la CEREB, Société d'études et de réalisation d'engins balistiques, qui sera chargé de la réalisation des missiles stratégiques, de la force nucléaire et du programme de fusées appelé Pierre Précieuse. En 1971, voit la création du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Le premier animal de nationalité française à partir de l'espace est le rat Hector. Il est envoyé à 120 km d'altitude le 22 février 1961. Puis deux autres rats le seront en octobre 1962. Dans la course du chat et de la souris, c'est toujours la souris qui précède le chat. Dans l'espace aussi, puisque ce sera ensuite le tour de la chatte Félicette. Celle-ci aura suivi un entraînement d'acclimatation à l'environnement d'un lancement. Bruit, centrifugeuse, confinement dans un espace réduit. On l'équipera de différents capteurs, dont un permettant de faire un électroencéphalogramme, pour étudier la réaction d'un organisme vivant à un vol spatial. Et le 18 octobre 1963, la 47e fusée Véronique l'emporte pour un vol suborbital de 10 minutes à 157 km d'altitude. Et elle passera 5 minutes en apesanteur. Elle se repose à quelques kilomètres du pas de tir et est récupérée par les équipes de la base d'Amaguir. Ce sera le seul chat à avoir eu droit à un baptême de l'air de l'espace. Paris Match titre le 11 novembre 1963 « C'est notre héroïne de l'espace ». Une statue, payée en 2017 grâce à la plateforme de financement participatif Quickstarter, qui a réuni 49 000 euros, soit plus que les 40 000 euros nécessaires à sa réalisation, sera faite à Paris. Autre fusée, la fusée Dragon. Entre mars et avril 68, des fusées Dragon sont tirées à partir d'une base mobile installées aux îles Kerguelen, au large de l'île de la Réunion. Elles étudieront la magnétosphère. Les suivantes des Dragons sont les fusées Diamant, toujours dans la série des pierres précieuses. Le 26 novembre 1965, la fusée Diamant A place sur orbite la capsule technologique A1, qui sera surnommée Astérix. Le premier satellite scientifique français, FR1, est placé sur orbite le 5 décembre 1965 par une fusée Scout, fusée américaine. Mais trois autres fusées Diamant seront tirées avec succès en 1968 avec le lancement de Diapason, le troisième satellite français, et en 1967. La fusée Diamant A était composée de trois étages de 15 tonnes, 3 tonnes et 7 tonnes de poussée. Elle fait 19 mètres de haut et sera tirée 4 fois, dont un échec. Sa remplaçante, Diamant B, pèse 25 tonnes et mesure 23 mètres. Tirée 5 fois entre 70 et 73, elle subira 2 échecs pour ses derniers tirs. Une version plus puissante, BP4, placera 4 satellites sur orbite en 3 lancements, inaugurant le lancement double qui fera le succès des fusées Ariane. Voyons maintenant d'où sont tirées ces fusées, maintenant. Sur la base de Kourou, car la base d'Amaguir a été rendue à l'Algérie le 1er juillet 1967, conformément aux accords d'Évian du 18 mars 1962 qui a clos la guerre d'Algérie. Les tirs à vocation militaire se déroulent alors au centre des Cédélandes, à Cazaux, à partir de 1962, et les tirs civils sont effectués au centre spatial guyanais à Kourou. C'est une fusée Véronique qui inaugurera le site de Kourou le 9 avril 1968 pour un vol suborbital. Le premier lancement orbital sera effectué par une fusée Diamant B le 10 mars 1970, plaçant le satellite Wika. Pourquoi le site de Kourou? Parce que c'est un territoire français au plus près de l'équateur. Et en partant d'équateur, les fusées bénéficient d'un effet de fronde, leur permettant de gagner de la vitesse en économisant de l'énergie. C'est en partant de ce même raisonnement que les Français avaient installé leur première base spatiale à Amaguir, en Algérie. Voyons ce qu'ont fait les Anglais. En 1954, ils adaptent le lanceur américain Atlas et développent leur propre missile balistique, Blue Streak. Le premier satellite anglais Ariel 1 est tiré de Cap Canaveral en avril 1962, le deuxième, Ariel 2, en mars 1964. Ils développent ensuite un lanceur national, Black Arrow, la flèche noire, lancé depuis leur base de Woomera dans le désert australien. Un échec en 1970 est suivi d'un succès en 1971. Mais la décision est prise par les politiques anglais de ne développer que des satellites qui sont relancés par des fusées américaines. Après les Français et les Anglais, voyons un peu ce qu'a été la coopération européenne. La première coopération européenne. On a créé l'ELDO, Europe Launcher Development Organization, en 1964, en février 1964. C'est une structure regroupant 7 pays, ceux du marché commun, plus l'Angleterre, pour développer un lanceur européen, Europa. Le premier étage est britannique, ce fameux missile Blue Streak, missile stratégique abandonné au profit d'une utilisation civile. Le deuxième étage est français, c'est la fusée Coralie, qui est dérivée de Véronique. Le troisième étage allemand, Astris, la coiffe est italienne, et le programme de vol est néerlandais. Chacun des trois étages a sa case d'équipement, qui gère le vol, et la mise au point est très difficile. Tous les lancements, entre août 67 et juin 70, sont des échecs. Coût du programme, plus de 600 millions d'euros actuels. Une version Europa 2 avait été décidée en 1966, avec 4 étages. Elle aussi explosa après quelques minutes de vol, mettant un terme à ce programme et à l'ELDO. Et on a créé aussi, en mars 1964, l'ESRO, European Space Research Organization. Elle regroupe 9 pays européens, dont les membres de l'ELDO, moins l'Angleterre, pour construire des satellites. 7 satellites seront lancés entre 1968 et 1972, mais par des fusées américaines, pas par celles développées par l'ELDO. Une troisième organisation a complété les deux précédentes, le CETS, Centre Européen de Télécommunications par Satellite. Il est chargé de développer les communications spatiales. C'est elle qui, suite aux échecs répétés, prend la décision de lancer 3 programmes majeurs. Le laboratoire Space Lab, en coopération avec la NASA, le lanceur européen Ariane et le système de navigation maritime Marotz, le tout géré par une agence européenne, l'ESA. Nous reparlerons d'Ariane et de l'ESA dans une future émission. Après ces vols purement balistiques, orbitaux, mais non habités, restons en France et voyons, jusqu'à ces débuts de conquête spatiale jusqu'à nos jours, quels ont été nos compatriotes à aller dans l'espace. Le premier, le français Jean-Loup Chrétien, part le 24 juin 1982 à bord du vaisseau soviétique Soyouz T6 et s'envole vers la station Salyut 7 en compagnie de deux cosmonautes soviétiques. Il volera aussi en 1968 dans la nouvelle station soviétique Mir, puis en 1997 dans la navette américaine Atlantis. Le 17 juin 1985, Patrick Baudry vole dans la navette américaine Discovery. Le 27 juillet 1992, Michel Tognini est sur la mission russe Antares. Et le 23 juillet 1999, on le retrouve dans la navette américaine Columbia. Le 1er juillet 1993, Jean-Pierre Aigneret embarque sur Mir, la station russe, et de nouveau sur Mir le 20 février 1999. Le 3 novembre 1994, Jean-François Clairvoy est dans la navette Atlantis. Puis le 15 mai 1997, il part pour 5 jours à bord de la station spatiale russe Mir. Et à nouveau avec les Américains sur Discovery, le 20 décembre 1999. Le 20 juin 1996, Jean-Jacques Favier est dans la navette Columbia, en route vers l'ISS. Le 17 août 1996, Claudie-André Dehé, l'épouse de l'astronaute Jean-Pierre Aigneret, vole sur Mir, devenant la première femme française dans l'espace, et la seule à ce jour. Elle revolera sur l'ISS en octobre 2001, amenée par un vaisseau Soyouz. Le 28 janvier 1998, Léopold Erhardt est sur Mir, puis en février 2008, sur la navette Atlantis vers l'ISS, puis à nouveau sur une navette, Endeavour, au retour de l'ISS. Le 5 juin 2002, Philippe Perrin part sur l'ISS avec la navette Endeavour. Et, dernier de la liste, pour l'instant, Thomas Pesquet, qui part le 17 novembre 2016 pour l'ISS, dans laquelle il restera jusqu'au 2 juin 2017, réalisant la plus longue mission pour un astronaute français. Mission très largement médiatisée, Thomas Pesquet envoyant régulièrement des photos prises de pan l'ISS et réalisant de nombreuses conférences à son retour.
Aller dans l'espace, c'est bien, mais il faut y vivre. Voyons comment.
Il faut d'abord se nourrir. Au début des années 60, la nourriture n'était pas une grande priorité, parce que les missions duraient seulement quelques jours. Les premiers astronautes devaient manger des petits cubes d'aliments secs, ou des pâtes étranges, composées de bœuf et de légumes qu'ils extrayaient de tubes. Les aliments lyophilisés ont constitué un grand changement au milieu des années 60. Les astronautes à bord de leur vaisseau spatial ajoutaient de l'eau aux aliments pour réhydrater leur repas. À la fin des années 60, le grand progrès suivant a été les aliments prêts à manger, qui étaient conservés grâce à la chaleur. Ainsi, les aliments de longue conservation pouvaient être entreposés à température ambiante sans risque. C'est important, car il n'y a pas de réfrigérateur à bord des vaisseaux spatiaux. Si nourrir est important, rester en bonne santé l'est tout autant. Les astronautes sont confrontés à de multiples facteurs potentiellement dangereux pour leur santé. Accélération au décollage, impesanteur, rayonnement ionisant, entraînant des troubles sur tout l'organisme. Ils ont le risque de collision avec des météorites ou des débris spatiaux qui peuvent venir à l'intégrité de leur vaisseau, voire le détruire instantanément. Concernant l'accélération, pendant le décollage, les astronautes sont soumis à des accélérations de 8 à 10 G, c'est-à-dire 10 fois la gravité terrestre. Ils pèsent 10 fois leur poids. Pour y résister, ils sont allongés sur des couchettes. Idem lors des retours sur Terre. Ils font pendant leur entraînement des passages en centrifugeuse pour les habituer à supporter cette intense pression et voir s'ils conservent toutes leurs qualités et toutes leurs compétences. L'impesanteur. Dès que le vaisseau atteint sa vitesse de satellite, les moteurs s'arrêtent et c'est l'impesanteur qui attend les astronautes, avec les troubles liés à la perturbation de la circulation sanguine, le système cardiovasculaire ne réagissant plus de la même façon que sur Terre, puisque le sang ne pèse plus rien et que le cœur n'a plus d'effort à faire pour irriguer tout l'organisme. À cela se rajoute le rapetissement des fibres musculaires, une accumulation des cellules adipeuses et une perte d'oxygénation. Une autre conséquence des vols en impesanteur est la sensation de nausée, identique à celle que nous nommons sur la Terre le mal des transports, due à un conflit entre ce que voit le passager et ce que ressent son cerveau. Pour s'y habituer, les astronautes font des séances attachées sur un tabouret qui tourne à 30 tours par minute pendant un quart d'heure. Heureusement, ces sensations cessent assez rapidement une fois dans l'espace, l'organisme s'habituant à son nouvel environnement. Pour mémoire, c'est sur un appareil de ce type que l'on soigne les personnes ayant des problèmes d'équilibre dus à un mauvais fonctionnement des cristaux composant l'oreille interne. Les rayonnements ionisants. Les rayonnements X et gamma créent en orbite une réactivité double de celle à la surface de la Terre. Les particules de hautes énergies émises par le Soleil ou les étoiles sont très dangereuses pour l'organisme. Percutant les parois des vaisseaux spatiaux, elles produisent des particules nocives avec des augmentations constatées de cataractes ou de mélanomes. Et lors d'éruptions solaires, les astronautes pourraient recevoir une dose mortelle de rayonnement, ce qui va poser d'énormes problèmes pour les vols très longue durée, parce qu'il n'y a là aucun moyen de se protéger, à moins de se mettre dans un caisson blindé, et les constructeurs de fusées seront confrontés à des questions de poids. Risque de collision. Nous verrons dans une prochaine émission quels sont les objets que pourrait croiser la trajectoire d'un vaisseau spatial et comment y gérer ce risque majeur. Et au-delà de ces événements physiques ou techniques, il y a un aspect aussi de problèmes qui sont liés à des erreurs humaines. Si des problèmes techniques ont souvent été la cause d'échecs dans les missions spatiales, ce ne sont pas les seuls responsables. En effet, à plusieurs reprises, ce sont des fautes commises par des techniciens et non détectées malgré les multiples procédures de contrôle effectuées tout au long des assemblages ou des programmations qui ont été la cause de la perte de fusées, de satellites ou de sondes. Quelques exemples. En 1971, lors du tir de Cosmos 419, qui devait amener la première sonde sur Mars, le moteur de mise sur la trajectoire devait s'allumer 1h30 après le décollage. Mais un technicien a affiché 1h30. La fusée était retombée depuis longtemps sur Terre, quand l'ordre aurait pu être donné d'allumer son moteur. En 2002, une fusée Ariane a été détruite en vol par le contrôle au sol. On découvrira plus tard qu'un chiffon avait été oublié dans un tuyau, entraînant un mauvais refroidissement du moteur Vulcain, et donc le départ sur une mauvaise trajectoire. En 2007, lors de la préparation des missions martiennes Spirit et Opportunity, dont on aura l'occasion de reparler, Les données de calibrage et de leur spectromètre respectif ont été inversées. Lorsqu'ils s'en sont rendus compte, alors que les sondes étaient déjà sur Mars, les techniciens de la NASA ont recalculé les données reçues avec les bonnes valeurs. Fin 2017, une fusée russe partie d'un des deux cosmodromes ne prend pas la bonne direction. Les coordonnées du champ de tir donné à la fusée, Baïkonour, correspondaient à celles de l'autre paille de tir, Vostonich. Et le 25 janvier 1998, le vol d'Ariane 5 VA241 plaçait deux satellites sur une mauvaise trajectoire. Un mauvais alignement des centrales inertielles, 70 degrés requis, mais 90 degrés affichés, comme pour les autres vols d'Ariane, a mené les satellites à 20 degrés de leur position prévue. Erreur non détectée encore lors des opérations de contrôle, qui ont été renforcées depuis. Mais les satellites rejoindront tout de même leurs orbites, sans pénalisation trop importante sur leur durée de vie opérationnelle. Cette anomalie est arrivée après 82 tirs d'Ariane 5 sans aucun incident en 15 ans. Heureusement, toutes ces erreurs n'ont pas la même conséquence catastrophique. Le 30 août 2018, les centres de contrôle russes et américains signalent une fuite d'air aux astronautes dans l'ISS. Rapidement identifiée, cette fuite était située dans le vaisseau Soyouz qui venait d'emmener deux cosmonautes russes. En mettant son gant sur le petit trou, un des astronautes le bouche et un autre fait ensuite une réparation, procédure bien connue dans l'espace. Mais ce trou n'avait pas été fait par une micrométéorite, mais par une perceuse. Peut-être. Quand, par qui, le mystère demeure. Je passe maintenant la parole à M. Guy Curcio, qui a travaillé dans plusieurs entreprises de l'industrie aéronautique. Guy Curcio, bonjour.
Bonjour.
Vous avez commencé votre carrière en 1981 à la division hélicoptère d'aérospatiale à Marignane en tant qu'ingénieur qualité, après avoir obtenu votre diplôme d'ingénieur de l'INSA, l'Institut supérieur des sciences appliquées à Lyon. Puis vous avez été le directeur de qualité de la société, devenu entre-temps ADS, puis Eurocopter, et maintenant Airbus Hélicoptère, et puis récemment Airbus. Pouvez-vous nous dire en quoi consistent les métiers de la qualité dans une entreprise qui fabrique des hélicoptères ?
Alors, je pense qu'il y a deux familles de métiers qualité. Il y a tout d'abord ce qu'on pourrait appeler les qualiticiens purs qui ont la responsabilité du système qualité, c'est-à-dire l'organisation de l'entreprise, les process de l'entreprise, les méthodes, les procédures. En gros, ce sont ceux qui ont la charge de définir comment l'entreprise fonctionne et d'assurer la surveillance de ce système. C'est également eux qui ont la charge de la certification indispensable pour travailler dans le domaine de l'aéronautique, comme la certification ISO 9001 ou EN 9100. Ce sont ces personnes-là qui mènent les audits qualité également, donc dans le but est de s'assurer qu'il n'y a pas de dérive dans l'application des procédures. Et il y a une deuxième famille également très importante qui sont en fait les fonctions qualité qui sont intégrées dans les autres fonctions de l'entreprise. Donc on retrouve des personnels de la qualité au sein des bureaux d'études, de la production, de la supply chain, donc des achats, de la logistique et de la prévente. Et ces personnes-là interviennent en tant que support à ces fonctions et également s'assurent que les processus en question, par exemple de bureau d'études, sont performants. Ils sont là en fait pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque de dérive et pour proposer des solutions d'amélioration.
Et votre rôle, le rôle de ces gens, c'est de certifier que les gens qui font une fonction technique l'ont fait conformément et les gens de la qualité ont un avis à donner là-dessus et peuvent dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord, ce qui peut remettre en cause un certain nombre de travaux.
Voilà, c'est-à-dire qu'on a au départ ce qu'on appelle un référentiel qui donne en fait les bonnes pratiques et les grandes règles pour les grands process ou pour les grands métiers, pour simplifier. Et donc le rôle de la qualité, c'est d'être à la fois au niveau de la prévention, donc éviter que les choses ne dérivent, et lorsqu'il y a une dérive, ben faire en sorte que des actions soient menées pour revenir à la norme, si vous voulez.
Et vous avez le pouvoir important de refuser un process ou une pièce parce qu'elle n'est pas conforme à une définition.
Voilà, alors dans le domaine de la production, c'est là où l'action de la qualité est la plus connue, on va dire, puisque là, il s'agit de s'assurer que la pièce est conforme, c'est-à-dire conforme à une définition qui a été elle-même approuvée, validée, hein, par des essais, par des calculs. Et en cas de dérive ou de non-conformité, bien sûr, le rôle de la qualité, c'est d'exercer un filtre et de bloquer, d'empêcher que la pièce soit montée sur un appareil, soit livrée au client en titre des rechanges, par exemple. Donc il y a ce pouvoir de filtre ou de blocage. Mais surtout, le rôle, il est aussi correctif, c'est-à-dire que lorsqu'on a constaté qu'il y avait une anomalie, le rôle de la qualité, c'est d'en identifier la cause pour éviter que ça se reproduise, de façon à ce qu'on diminue naturellement les rebuts et les retouches qui coûtent cher à l'entreprise.
Donc, vous avez parlé tout à l'heure d'audit, et donc dans un audit, le but d'un audit, c'est bien de regarder un processus, éventuellement suite à une anomalie, pour regarder pourquoi on a été amené à faire une anomalie, et de corriger pour plus que ça se reproduise.
Exactement, c'est ça. En fait, souvent, les causes génériques des problèmes sont liées à ce qu'on appelle les 5M. C'est intéressant d'en parler deux minutes, parce que les 5M, c'est tout ce qui se rapporte à la main-d'œuvre, donc à la compétence humaine, à la méthode, c'est-à-dire la façon dont les gens travaillent, au milieu, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous travaillez, aux moyens qui sont utilisés, les moyens industriels. Voilà, donc on classe en général à la matière, voilà, la matière qui est en fait la matière qu'on met en œuvre, qu'on usine, etc., qui peut présenter des défauts. Et le rôle aussi de la qualité, c'est de réceptionner donc cette matière pour être sûr qu'elle a été livrée par le fabricant sans défaut, dans des critères bien définis par le bureau d'études.
Oui, parce qu'à Marignane, on intègre des pièces et on les fait voler, on intègre des pièces qui viennent de l'extérieur, et vous êtes amené aussi à faire des audits chez nos fabricants, nos sous-traitants, nos fournisseurs, pour regarder que, en amont, ce qu'ils nous fournissent est bien conforme à ce qu'on leur a commandé.
Oui, tout à fait. L'activité aéronautique, en fait, s'intègre dans une filière. En fait, il faut savoir qu'une entreprise comme Airbus Hélicoptère achète 70% de son chiffre d'affaires en équipement, matière, etc. Donc, en fait, la plupart des éléments qui sont montés sur une machine proviennent de l'extérieur de l'entreprise. Et donc, en matière de qualité, je dirais le plus gros risque, en volume en tout cas, vient de l'extérieur. C'est pour ça qu'on met en place des démarches de surveillance de nos fournisseurs pour s'assurer effectivement qu'ils vont produire suivant les critères qu'on a définis.
Parce que on fait un filtre en entrée sur un certain nombre de pièces, mais on peut pas tout contrôler, on peut pas tout vérifier, tout ce qui a été fait. On s'appuie sur les systèmes d'assurance qualité, voilà, de nos fournisseurs.
Absolument, c'est pour ça qu'on leur demande d'être certifiés suivant une norme qualité, qui est la norme ISO 9001 pour l'ensemble de l'activité, et EN 9100 qui est spécifique à l'aéronautique, qui garantit que normalement, tout le monde applique les mêmes règles, que ce soit des grandes entreprises comme Airbus ou comme ses fournisseurs, de façon à ce que les aspects conformité soient garantis.
Parce que, en final, vous livrez, enfin, les gens de la qualité, que ce soit les techniciens ou les ingénieurs ou le chef de service, chef de département ou le directeur, livrent aux essais en vol une machine qui est montée avec des pièces qui ont été contrôlées. Donc vous vous engagez personnellement, votre nom, et quand un ingénieur qualité signe sur un document disant qu'il a vérifié tout ça, lui c'est pénal, civilement, il engage sa responsabilité civile sur le fait que le produit est conforme et qu'il est bien apte à voler. Et s'il y a un accident, il y a une enquête et on va ressortir ces dossiers.
Absolument, il y a à la fois une responsabilité à trois niveaux. Une responsabilité de l'entreprise, une responsabilité du directeur et une responsabilité de l'opérateur. L'opérateur pourrait être un agent de production qui est lui-même responsable de la qualité de ce qu'il fabrique et du contrôleur s'il y a un agent de la qualité qui doit contrôler ou pas les pièces en question. Donc les gens ont une responsabilité individuelle. C'est effectivement quelque chose de très très important dans le domaine de l'aéronautique.
Et cette responsabilité individuelle, elle est matérialisée par ou un tampon ou une signature sur un document. Ces documents sont archivés pendant très longtemps, toute la vie de la machine, et en cas d'accident, on ressort tout ça des années, voire des dizaines d'années après, et on dit, et pourquoi, et comment se fait-il que cette pièce est cassée, alors qu'elle a été contrôlée et compagnie, et on recherche tout ça. Donc la responsabilité d'un contrôleur, elle est très importante, parce qu'on peut ressortir quelque chose des années après. Et en tant que directeur, votre responsabilité, elle est engagée pour des dizaines d'années.
Elle est même engagée tout au long de ma vie, puisqu'il y a un cas très célèbre, qui est le cas du patron du bureau d'études de l'ATR, qui a été mis en examen alors qu'il était parti à la retraite depuis 10 ans pour un accident qui était survenu, vous devez vous en souvenir, qui était le givrage des voilures de la TR qui avait provoqué un accident mortel. Et en fait, il s'était avéré qu'il y avait à la base un problème de conception. Et on a été recherché le directeur du bureau d'études de l'époque qui avait signé la définition ou qui assumait la responsabilité de la définition de l'époque des dégivreurs de la voilure.
Et il a été mis en examen.
Et il a été mis en examen. Donc finalement, la responsabilité, elle vous suit tout le temps. Si vous ne pouvez pas dire, maintenant je ne suis plus en activité, je n'étais pas responsable. Si, vous restez responsable toute votre vie de ce qui a été fait à l'époque où vous étiez en charge.
Oui, bien sûr. Après, les choses changent, il y a d'autres personnes.
Oui, bien sûr.
Mais quand on a signé un document, c'est pour la vie. C'est
absolument.
Comme le mariage, là, il n'y a pas de divorce possible.
Non.
Très bien. Donc, là, on a vu l'aspect qualité. Donc, c'est une partie de votre activité. C'est au début de carrière. Donc, ça a duré de 1981 à jusqu'en 2011.
Alors, oui. Alors, si on veut retracer un petit peu, moi, je suis rentré, j'étais pas ingénieur qualité. Parce qu'à l'époque, d'ailleurs, ces formations n'existaient pas. Où il y avait de très, très, très peu, très peu d'écoles qui formaient à la qualité. Donc, moi, ma spécialité, c'était la physique des matériaux et des procédés. Donc, je suis rentré par la voie technique. Donc, je travaillais dans un laboratoire. Et ce laboratoire avait la charge, justement, d'expertiser les pièces après des accidents d'hélicoptères. Donc, très vite, j'ai été sensibilisé au risque, en fait, que faisait courir l'ensemble des processus de l'entreprise en cas de non-conformité qui pouvait déboucher sur des accidents et la plupart du temps, malheureusement, des morts de l'équipage. Donc, pendant 12 ans, j'ai pratiqué donc ces expertises, ces analyses. Donc, j'ai été responsable du laboratoire pendant 3 ans. Et c'est seulement à l'issue de cette période de 12 ans que j'ai commencé à travailler dans le management de la qualité et à prendre des postes de chef de département de qualité. Donc j'ai travaillé dans le domaine des pales, donc sur le site de la Courneuve, qui fabrique toutes les pales d'hélicoptères. Ensuite, je suis revenu sur Marignane, où là j'ai pris la qualité du service à la clientèle, donc avec l'activité de maintenance, de logistique, de formation des clients, toute la partie documentaire client, donc les manuels de vol, les manuels d'entretien. Ensuite, j'ai été chef du département qualité industrie, donc tous les centres de compétences, c'était le terme de l'époque, qui fabriquent les composants, on va dire, de l'hélicoptère. Et c'est donc à l'issue de cette période que j'ai été nommé directeur qualité de Rencontre France.
Jusqu'en 2011.
Donc, voilà.
Et après, là, vous quittez Eurocoptère pour autre chose.
Voilà. Donc là, on m'a proposé d'aller chez Sogerma, le groupe Sogerma, qui est une filiale du groupe EADS à l'époque, donc Airbus aujourd'hui. Et là, j'avais deux fonctions. J'étais vice-président de qualité du groupe Sogerma. Donc globalement, j'avais la même mission qu'Aérocoptère, mais j'étais également membre du comité de direction. Et à ce titre, donc en plus de ma casquette qualité, j'ai participé à tous les choix, on va dire, stratégiques de l'entreprise, et notamment la préparation à la fusion qui a eu lieu entre Sogerma et Aerolia pour créer le groupe qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Stelia, qui est le deuxième fabricant d'aérostructures au monde.
Et là, on n'est plus à Marignane, on est passé à Rochefort.
Voilà, le siège de Sogerma est à Rochefort. Sogerma représentait 2500 personnes, Rochefort c'était un millier de personnes. Et pendant cette période, donc on m'a confié également un projet d'entreprise qui avait pour but de préparer justement l'entreprise à la fusion et à l'amener dans les meilleures conditions possibles. Et j'en parle parce que je pense que c'est souvent ce que l'on confie aux responsables de la qualité, parce que l'on a une vision assez transversale, on va dire, de l'entreprise. On connaît très bien l'ensemble des processus. Et lorsqu'il s'agit de mener des projets de transformation, on est bien placé pour, en plus du fait qu'on connaît bien les méthodologies, qu'on a des approches de management de projet que l'on pratique de façon assez fréquente, donc on est souvent amené, la qualité, à mener ce genre de projet.
Et en plus, je dirais, les gens de la qualité, ils ont un état d'esprit, sans caricaturer, assez carré, on est très méthodique. Donc quand il s'agit de faire une transformation, les qualiticiens sont capables de faire des analyses et de proposer des solutions qui sont en général cohérentes et qui rentrent bien dans des processus. On a cette démarche intellectuelle qui permet d'y arriver, quoi, plus facilement.
Alors, j'en parlerai un peu tout à l'heure parce que c'est des avantages et des inconvénients à la chose, c'est une des spécificités de la qualité. Mais effectivement, quand on mène un projet dont le but est de fusionner deux grandes entreprises pour créer un numéro 2 mondial, c'est clair qu'il vaut mieux quand même mettre les choses à plat parce que c'est pas une petite affaire, quoi. Hein.
Oui.
Et il y a des enjeux majeurs pour l'entreprise et voire même pour le groupe pour les actionnaires au-dessus, quoi. Donc ça, c'était ma première casquette. Et ma deuxième casquette, qui était un métier nouveau pour moi, était celui de chef d'établissement, où là, donc, j'assurais la direction du site de Rochefort et de Mérignac. Puisqu'en fait, Sogerma, en fait, fabrique des aérostructures. Il fait tous les tronçons d'Airbus. Voilà, une aérostructure, c'est une industrie qui fabrique des tronçons. Vous savez que les avions sont fabriqués par tronçons. Et ces tronçons sont fabriqués par plusieurs entreprises. Donc Sogerma est en charge toujours de fabriquer la partie de l'avion qui est juste derrière la porte d'entrée de l'avion, la partie avant, on va dire, entre la voilure et la porte d'entrée. Donc ça, c'est une première activité. On fabrique également toutes les voilures de l'ATR, 42 et 72. On fabriquait également tous les sièges pilotes de tous les Airbus. Et on fabrique aussi tous les sièges des classes affaires et des classes premières. Donc ce sont des métiers très différents, avec des exigences qualité très différentes. Et le site, pour cela, était très intéressant, parce qu'on avait à la fois des métiers classiques de l'aérostructure, donc
la tôlerie, l'arrivage, peinture,
etc. Et puis quelque chose d'un peu plus artisanal, qui est la fabrication de fauteuils, on va dire, business et premières. Il faut savoir quand même que chaque siège coûte le prix d'une grosse berline, hein, on va faire simple.
Mmh. Mmh.
Donc, et puis les clients qui vous achètent ça sont des grosses compagnies aériennes qui ont des exigences, on va dire, extrêmes en matière de qualité. Quand un passager rentre dans un avion, si vous voulez, vous demandez dans quel avion êtes-vous. C'est pas faire la différence entre un Airbus et un Airbus. Mais ce qu'il va voir, c'est, pour ceux qui sont en business en première, c'est la qualité des fauteuils.
Oui, parce qu'il va y passer plusieurs heures. Et il a payé relativement cher son billet, il veut y être bien.
Et donc, c'est l'image de marque de la compagnie aérienne. Donc, les compagnies aériennes sont très, très exigeantes au niveau de la qualité de ces produits-là.
Et en plus, ces dernières années, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits justement pour la qualité et le confort et les services offerts autour de ces
sièges. Absolument, c'est en permanente évolution. Toute la technologie en matière de médias évolue, le confort également. On va de plus en plus vers des fauteuils, ce qu'on appelle full flat, c'est-à-dire vous dormez sur un vrai lit.
À l'horizontale.
Qui fait qu'on va complètement à l'horizontale.
Maintenant, il y a même des compagnies qui ont mis des suites.
Tout à fait.
Des lits doubles avec des suites.
Sogerma s'est fait une spécialité des suites en première, où là, vous êtes dans un petit appartement.
Avec une douche.
Avec une douche, avec un grand lit, avec... au niveau équipement, on va dire télévision, vous avez des grands écrans comme chez vous. Enfin, donc il faut imaginer que derrière tout ça, vous êtes quand même dans une industrie aéronautique, donc c'est d'autres métiers. Hein. Vous travaillez le cuir, on travaille avec Hermès, on travaille avec des grands couturiers. Donc l'approche qualité n'est évidemment pas la même que quand vous êtes en train de poser des rivets
sur une carlingue.
Voilà. Et pourtant c'est la même entreprise. Voilà. Donc, en matière de qualité, pour moi c'était nouveau, parce que j'appréhendais quand même un autre domaine d'activité avec d'autres exigences clients.
Ça doit être, le changement doit être passionnant.
Le changement est passionnant, et puis quand même, vous savez, quand vous livrez, en fait, on livre l'ensemble d'une cabine. Tiens, vous livrez pour un Airbus 330, vous livrez 60 fauteuils business. Il suffit qu'il y en ait un
qui soit pas bien.
C'est la totalité qui est refusée. Et quand vous savez que les compagnies aériennes vendent leurs billets parfois un an avant que l'avion ne soit livré, si le moindre retard, c'est catastrophique d'un point de vue économique.
Et là, c'est Sogerma qui paye le retard.
Ben là, je pense que ça remonte très très haut, y compris d'Airbus, puisque Airbus intègre, en fait, nous on livrait les chaînes Airbus en fauteuil, et quand Airbus ne livre pas à l'heure son avion parce que
un fournisseur
n'a pas livré à l'heure, on en entend très vite parler. Oui. Les décibels vont très vite. On ne peut pas se permettre.
Et les dollars vont tomber très vite.
Ça va très vite, oui. Donc ça, c'est l'exigence qualité ultime, on va dire. Comme autre activité en tant que directeur d'établissement, qui est aussi une partie très importante, j'avais la charge d'être en relation avec l'extérieur de l'entreprise. Ça, c'est une composante aussi qui compte dans une ville comme Rochefort, qui a 20 000 habitants, mais il faut savoir qu'il y a eu un site aéronautique depuis près d'un siècle là-bas. Donc cette usine a toujours existé, on la connaissait sous le nom de Socea, après c'est devenu Socata, ça a fusionné pour devenir Sogerma, Stelia. Stelia, oui. Il y a eu des générations de Charentais maritimes qui ont travaillé dans cette entreprise.
Oui, oui.
Donc les gens sont extrêmement attentifs à ce qui s'y passe, c'est le premier employeur de Charente-Maritime, la Sogerma.
Comme l'était Marignane avec la Snias à l'époque, après-guerre.
Exactement.
Avant-guerre même, oui. Voilà. Oui.
Donc il y a une très vieille histoire aéronautique sur le site. Et donc moi, en tant que directeur de site, j'avais des contacts avec tous les institutionnels locaux, les maires, les députés, les préfets, etc. Et mon rôle en tant que directeur d'établissement, c'était de m'assurer que l'établissement fonctionnait bien, c'est-à-dire qu'au niveau des moyens industriels, au niveau des moyens humains, au niveau de la sécurité des biens et des personnes, évidemment, c'est une composante très importante parce que c'est une région qui a été quand même sinistrée avec Xintia.
Oui.
Donc on a subi quand même une très grosse tempête, l'usine était inondée, donc vous arrêtez la production pendant une semaine, tous les ateliers, il y avait 20 cm d'eau. Donc vous imaginez en matière de direction de site, la sécurité civile est intervenue au niveau des toitures parce qu'il y avait de la grêle qui avait bouché toutes les évacuations. Ben, c'était une grosse... un gros moment, on va dire, je dis pas de solitude, parce qu'au contraire, il y avait une grosse équipe, les gens s'étaient mobilisés de façon incroyable pour nettoyer le site. Donc toute cette relation avec l'environnement de la vie de l'entreprise est très importante en province, on va dire. Et c'est également à cette époque-là que j'ai dirigé le cluster local. Le cluster, c'est si vous voulez, la réunification de l'ensemble des entreprises aéronautiques, donc les grands groupes, parce qu'en Charente-Maritime ou en Poitou-Charente, vous trouvez tous les grands noms de l'aéronautique, hein, Airbus, Thalès, Dassault, Snecma, ils ont des sites qui sont présents, mais également vous avez une très grosse sous-traitance, et donc cet ensemble-là est réuni au sein d'un cluster aéronautique qu'on appelle Aéroteam. Donc j'en ai assuré la présidence pendant 3 ans. On y intégrait également des écoles d'ingénieurs. Il y avait l'ENSMA de Poitiers qui était présent, des lycées techniques, des laboratoires. Et le but de ce cluster, c'était de développer la filière aéronautique en Poitou-Charente. Justement parce que c'est une région quand même qui est pas, on va dire, très connue en matière d'aéronautique. Et lorsque l'on a obtenu l'autorisation de monter un stand au Bourget, en 2015, on a eu un stand magnifique de 450 mètres carrés dans le hall 2, qui est le hall où il y a tous les grands constructeurs, tous les grands noms de l'aéronautique. Et il y avait 30 entreprises présentes sur le stand. On a été visité par des ministres, par le président de la République. Donc la filière aéronautique en Poitou-Charente a pu se montrer. Et lorsque la fusion des régions a eu lieu, la Grande Aquitaine, qui est quand même une région très puissante en matière d'aéronautique, autour de Bordeaux, eh bien, la Poitou-Charente, qui a fait partie de la nouvelle région, était déjà connue par le président de la région, Alain Rousset, qui est venu spécifiquement sur notre stand, qui avait découvert cette activité-là. Et je crois pouvoir dire que ça a eu des impacts très intéressants pour toute la filière aéronautique locale dans le cadre de la nouvelle région en matière d'aide.
Oui, parce que les politiques font beaucoup dans ces domaines, parce qu'il y a des investissements autour d'une usine sont importants, il faut qu'il y ait de l'aide derrière.
Ben, vous savez que l'emploi, c'est quand même l'économie industrielle, l'emploi, c'est la première priorité de tous les politiques. Partout. Hein. Et pas toujours une bonne image des politiques au niveau national, mais au niveau local, il y a souvent des gens
très compétents,
qui sont très compétents et qui veulent quand même que les choses se développent. Quoi.
Très impliqués.
Et si vous leur apportez les bons arguments, les bonnes justifications, vous leur donnez un peu de vision, eh bien, il faut que vous en faites des alliés. Et à la fin, ça marche.
Donc, votre carrière n'était pas simplement une carrière technique, mais là, il était une carrière, entre guillemets, politique, parce qu'il y a beaucoup d'aspects de relations publiques. Dès qu'on est directeur, on voit, c'est sûr que le boulot n'est pas simplement dans la maison, c'est faire vivre la maison dans son environnement extérieur.
Bah oui, on n'est pas isolé. Hein. De toute façon, de plus en plus, on est dépendant des institutionnels, ne serait-ce que pour étendre les sites, par exemple.
Oui.
Moi, j'ai racheté des terrains autour de l'usine Sogerma, qui étaient des friches industrielles qui étaient occupées par Zodiac auparavant. Il fallait l'accord de la commune, du département, etc. Donc là, il faut des bonnes relations également.
Hein. Ah ben oui, c'est mieux.
Et donc moi, j'ai eu la fierté, quelque part, d'avoir reçu le prix du Charentais de l'année 2013. Alors, c'était pas moi qui était honoré, bien sûr, c'était l'entreprise, mais c'était une façon de reconnaître l'impact qu'avait la Sogerma sur l'emploi, parce qu'on avait embauché quand même 100 personnes par an pendant 3 ans.
C'était combien de personnes à Sogerma en total?
Et ben, quand je suis arrivé, moi, c'était 800 personnes. Quand j'ai quitté, il y avait 1100.
Donc, dans une ville comme Rochefort, dans la région, ça représentait un gros... Ah, c'était le plus gros employeur de la région.
Absolument. C'est le plus grand employeur de la région. Et en plus, qui nourrit, je dirais, tous les sous-traitants locaux, parce qu'il y a quand même une centaine de PME, on va dire, dans la région Poitou-Charentes.
Donc, on peut estimer qu'il y a combien de personnes qui travaillent?
On avait estimé au niveau de la région environ à 5000 personnes, à peu près.
5000 personnes.
Dans l'aéronautique.
Une ville comme Manosque, uniquement dédiée à l'aéronautique. Oui, c'est très, très, très important.
Mais ça, c'est ce que les gens, peut-être, ne savent pas. C'est qu'on connaît tous les grands groupes, Airbus, Dassault, Thales, etc. Mais il faut savoir que l'aéronautique, c'est quand même une grande famille. Hein, et que tout Airbus que vous êtes dépendant peut-être d'une petite TPE qui fait 20 personnes, qui est située au fin fond
de la Corrèze, mais qui fait le composant qui
s'il ne livre pas en temps et en heure, va impacter à la fin la livraison d'un Airbus
A380 qui coûte 200 millions de dollars.
Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle de filière, parce qu'on est tous, je dirais, en relation et interdépendants. Quoi. Donc c'est ça qui est intéressant quand même dans cette activité-là. Mmh. C'est qu'on est, on va dire, au niveau national d'abord, mais même au niveau international maintenant, une grande famille, quoi. Et tout le monde finit par se connaître.
Et dans cette grande famille, parce que notre but aussi dans la Fréquence Mistral, c'est de montrer qu'il y a un avenir, il y a un présent en aéronautique, il y a un avenir à l'aéronautique, l'avenir c'est les jeunes. Aujourd'hui, vous, avec votre passé, ce que vous avez fait, vous êtes à la retraite maintenant, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui arrive là, en lui disant comment est-ce qu'on peut rejoindre justement une famille comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rejoindre cette famille qui a un avenir? Parce que quand on voit les programmes Airbus ou la 320, il est incarné commande plein pour 10 ans. Ouais. Donc les jeunes qui sont aujourd'hui à l'école et qui ont envie, il y a un avenir là-dedans. Ariane, on va lancer Ariane 6, on en a pour 20 ans. Enfin, donc tout est ouvert. Donc votre conseil, ça serait quoi?
Ben moi, je donnerais 3 conseils en fait. Le premier, c'est de s'intéresser à l'histoire de l'aéronautique. Parce que l'aéronautique, c'est avant tout une passion, c'est une conquête. D'ailleurs, vous le savez bien, puisque vous faites votre mission tous les mois. C'est une conquête. L'aéronautique, en fait, c'est toujours dépasser ses limites. Ça a toujours été ça, l'aéronautique. Hein. Il a fallu dépasser la gravité, après il a fallu dépasser le mur du son. Et maintenant, on a des enjeux, des challenges au niveau de la distance. On prévoit d'aller sur Mars. Enfin bon.
Donc, on veut faire 75 Airbus à 320 par mois.
Ça, c'est notre forme de conquête.
C'est délirant.
Donc en matière industrielle, il faut effectivement... Donc cette conquête, en fait, elle est très inspirante. Hein, et c'est une source de motivation très importante. Parce qu'un jeune qui rentre dans l'aéronautique par opportunité, il n'aura pas la même carrière, selon moi, que s'il rentre par passion. Il faut que ça soit une passion, l'aéronautique. Et il n'y a rien de tel que développer une passion, de s'intéresser à l'histoire. Parce que là, à la fois, on a l'illustration par les gens qui l'ont créé, et puis on voit l'évolution qui a été technologique, industrielle, etc. Donc s'intéresser à l'histoire. Le deuxième conseil, moi je dirais, c'est de se former un maximum. Pourquoi? Parce que l'aéronautique, c'est un domaine d'excellence. On ne demande pas autant dans d'autres industries que dans l'aéronautique. Parce qu'il y a toujours ce risque, quelque part, on est toujours aux limites. Et donc ça, on a besoin, on va dire, de professionnels, plus qu'ailleurs encore. Donc les professionnels, c'est des experts, et pour être expert, il faut se former. Donc moi je dis, un jeune, plus il se forme, plus il a de chances, on va dire, de faire sa place et d'avoir une carrière intéressante. Et le troisième conseil, je dirais, c'est de faire des stages dans des entreprises aéronautiques. Alors, idéalement, chez des grands constructeurs. Pourquoi? Parce que ça leur permettra d'approcher au plus près le produit final, hein, l'avion, l'hélicoptère, la fusée. La première fois que je suis rentré à Marignane et que j'approche un hélicoptère, bon, j'étais allé au salon du Bourget quand j'étais petit, j'avais vu. Mais là, après mes études, où je pouvais faire le lien entre ce que je voyais et je m'imaginais la façon dont ça avait été conçu et construit, c'est fabuleux, quoi. Pour un jeune qui est en études, en formation, et qui voit un hélicoptère de près, qui s'approche du moyeu, qui rentre dans une cabine, qui voit toute l'électronique, c'est fabuleux. Quel que soit le métier, sa spécialité, ça fait rêver. S'il peut pas rentrer dans un bureau, ben qu'il aille chez des sous-traitants, parce que là c'est un autre volet, ce qu'on disait juste précédemment, c'est-à-dire que aller voir comment se conçoit un composant électronique, comment s'élabore un produit, on va dire un matériau très élaboré ou un produit très technique, un logiciel, etc. C'est aussi une façon, je dirais, d'approcher l'aéronautique. Donc faire des stages pour, rapprocher l'étude, la théorie de l'école.
Un concept de la réalité.
Parce que ça aussi, c'est très motivant. Hein. C'est très motivant que d'approcher de près le produit fini. Quoi.
Et ça, je confirme. Tout le monde peut être passager d'un avion. D'un hélicoptère, c'est déjà beaucoup plus délicat. Tout le monde peut être passager. Mais concevoir, monter, fabriquer, monter dans un hélicoptère qu'on a fabriqué, qu'on a aidé à concevoir et à fabriquer ou à certifier ou à... C'est quand même une expérience humaine qui est extraordinaire.
Ouais.
Que ce soit un avion. Bon, pour l'instant, les fusées, aujourd'hui, on n'arrive pas encore à envoyer des gens. Ça va revenir. Là, les vols habités vont reprendre, mais c'est pas encore du domaine du public. Mais les hélicoptères et les avions, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et pour les jeunes qui vont démarquer, qui ont 40 ans d'activité devant eux, nous, dans notre carrière, on a vu des choses extraordinairement évoluer. On sait qu'eux, ils auront un avenir fantastique. Ils vont peut-être voir les gens sur Mars, s'installer sur la Lune, voir des avions qui vont voler, qui vont faire le tour de la Terre en 40 minutes. Enfin, l'avenir, il est à écrire et il est à imaginer. Et aujourd'hui, on sait que techniquement, il y a beaucoup de choses à faire.
L'avion de demain sera très différent de celui d'aujourd'hui. Quand on voit les avant-projets, tous ne verront pas le jour. Mais au niveau des concepts, c'est fabuleux.
Il y a des choses merveilleuses qui arrivent.
C'est l'esprit de conquête, c'est dépasser les limites. Ça dépasse l'imagination.
Complètement.
C'était le but,
oui.
Le slogan du groupe ADS,
une
entreprise qui dépasse
l'imagination.
Mais c'est la réalité.
Oui. L'imagination, elle n'a pas de limite. Et ce qu'on attend et ce qu'on espère des jeunes de demain, c'est justement qu'il repousse ses limites en permanence, comme vous disiez tout à l'heure.
Ouais.
On est toujours aux limites, et le but de l'homme, c'est toujours de les repousser.
Voilà.
Bon, mais ça fait un beau slogan, et ça fait un bel avenir. Bien, merci M. Curcio.
C'est un plaisir.
Je pense que c'est encore une bonne démonstration que quand on est motivé, même si au départ, c'était pas l'aéronautique, c'était pas forcément vers là que vous vouliez aller, vous êtes complètement investi, et vous y avez passé votre vie en faisant beaucoup de choses. Et nos jeunes auditeurs, ils ont des modèles, on leur a donné des modèles, et ils savent qu'il y a beaucoup de choses à faire, et l'aéronautique, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bien, bonne journée, et puis à une prochaine fois peut-être.
Merci beaucoup, au revoir.
Après cette très intéressante interview, je vous propose une petite pause musicale avec Elton John.
She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. To find I'm not the man they think I am at home. I'm down.
Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket.
Lors de la prochaine émission, nous évoquerons le programme Apollo et l'émission préparatoire au débarquement sur la Lune d'Apollo 11 en juillet 1969. Pardon pour le lapsus. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un mois, le jeudi 6 juin 2019, à la même heure. D'ici là, si vous avez des questions relatives au contenu de cette émission, vous pouvez les envoyer à Espace Horizon Inaccessible sur le compte Facebook de Fréquence Mistral. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous y trouverez aussi toutes les références et les ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission ainsi que les précédentes. Cette émission sera disponible sur le site de la radio fréquencemistral.com et sera rediffusée le mercredi 15 mai à 15h. Merci à James pour la technique, à François et à son équipe pour leur accueil. Je vous souhaite une très belle fin de journée.